France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce qui aurait dû être un moment de légèreté. On avait prévu de vous parler de plein de choses, de livres originaux à quelques semaines de Noël. Et puis voilà, nous sommes évidemment rattrapés par l'actualité. Nous sommes en édition spéciale. C'est, comment dire, le grand bazar dans Paris. Ce soir, on va essayer que ce ne le soit pas trop sur ce plateau. Je vais tout de suite vous présenter les invités qui ont accepté de passer ce début de soirée avec nous. Pierre Gattaz, merci d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien président du MEDEF, bien évidemment. Aujourd'hui, vous êtes le président du Business Europe, l'organisation qui fédère les différents mouvements patronaux au niveau européen. Vous êtes patron, évidemment, de votre groupe Radial. Et puis, vous êtes l'auteur de Y croire, un livre où vous faites part d'un certain nombre de vos convictions sur l'entreprise, mais aussi peut-être sur la façon de diriger le pays. Vous en parlerez tout à l'heure. Jeannick Halimi, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Thomas Guenolé, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous êtes membre de la France Insoumise. Et puis Jérôme Sainte-Marie, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes également politologue, vous êtes directeur de Pollingvox. Allez, c'est parti pour une heure de débat. Mais évidemment, sur France Info, priorité au direct. Nous allons tout de suite retrouver l'un de nos envoyés spéciaux qui est dans Paris. Bonsoir Benjamin Ely, vous êtes avenue Kléber. L'avenue Kléber, c'est l'une des avenues qui mène à l'étoile. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ?
Je vois la consternation, surtout des passants qui ont repris possession des trottoirs. Les casseurs sont partis, les gilets jaunes sont partis également, et les forces de l'ordre commencent à lever le camp. Reste donc la consternation générale. L'avenue a été ravagée. Rares sont les commerces qui ont été épargnés. Énormément de vitrines brisées, notamment la vitrine de cette pharmacie juste devant moi, à terre. Un peu plus loin, une supérette. La vitrine éventrée, et j'ai vu les casseurs rentrer dans cette supérette pour récupérer des bouteilles d'alcool. Sur 100 mètres à peu près de cette avenue, au moins une dizaine de véhicules ont été incendiés. Il y en a encore un qui brûle un peu plus loin. Donc vraiment un paysage de désolation ce soir, une vision consternante pour tous les passants qui nous entourent, les riverains qui me disaient que c'est impossible de s'exprimer ainsi, que la colère des gilets jaunes parfois peut-être légitime, mais s'exprimer ainsi, laisser libre champ aux casseurs, ce n'est pas possible. Nous aussi, nous sommes une partie du peuple, me disait un commerçant, et nous méritons, comme les Gilets jaunes, le respect.
Benjamin Ely, en direct de l'avenue Kléber à Paris. À l'instant, Emmanuel Macron qui déclare depuis le G20 qui se déroule en Argentine, je n'accepterai jamais la violence, il a décidé de rentrer dès demain. En fait, c'était un petit peu la chronique d'une journée de violence annoncée. Tout le monde craignait, mais peut-être pas avec un tel degré de violence, des voitures qui brûlent, des projectiles qui volent. C'était donc cet après-midi sur les Champs-Élysées à Paris. Tout le monde s'y attendait, y compris peut-être le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ce matin, il était aux côtés des forces de l'ordre, écoutez-le.
Ils n'ont pas besoin de s'infiltrer sur les Champs-Élysées. Ils peuvent venir sur les Champs-Élysées. Ils peuvent venir, rentrer. On leur demande juste de pouvoir fouiller les sacs pour éviter qu'il y ait des armes par destination dans ces sacs. C'est tout. Et donc, celles et ceux qui, maintenant, ne voudraient pas rentrer au sein des Champs-Élysées alors qu'ils souhaitaient y venir, me font penser à celles et ceux qui exigent et refusent de négocier, notamment avec le Premier ministre. Vous savez, dans une contestation, à un moment donné, il faut accepter le dialogue, il faut accepter quelques règles. Il n'y a pas d'ordre public sans règles. Il n'y a pas d'ordre public qui garantit la liberté de chacun s'il n'y a pas, à un moment donné, la volonté de discuter, de dialoguer, d'échanger et de construire ensemble. C'est ce à quoi le président de la République et le Premier ministre ont invité les manifestants. D'abord, tout de suite, à Matignon hier, vous l'avez vu, et puis pendant 3 mois, partout sur le territoire, pour qu'on puisse entendre ces colères, mais qu'elles se structurent, qu'elles s'organisent, et qu'on puisse apporter des réponses. Nous en avons déjà apporté, il faut continuer à en porter.
Voilà, ça c'est Christophe Castaner, donc ce matin sur les Champs-Élysées. Pierre Gattaz, à quoi, à votre avis, est-on en train d'assister ?
Je pense que la situation est très grave. Il y a deux parties. Il y a la partie manifestation, manifester les gilets jaunes. Je crois que là, ils expriment un ras-le-bol fiscal, un ras-le-bol que je peux comprendre.
Vous étiez président du MEDEF, vous êtes beaucoup battu contre...
Je reviendrai là-dessus. Je crois qu'on a un problème de dépenses publiques qui est trop élevé en France et qu'il faut régler comme la plupart des grands pays l'ont fait. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'il faut écouter ce ras-le-bol fiscal de la plupart des Français dans les territoires, dans les quartiers. On parle pas assez renforcer les bassins d'emploi des territoires. Je crée une fondation actuellement pour tenter de revitaliser par l'entrepreneuriat ces territoires malmenés, dévitalisés depuis 30 ans. Puis par ailleurs, vous avez des casseurs, des pilleurs, des pillards qui arrivent et qui profitent de la situation. Et ça, c'est absolument inacceptable, c'est intolérable. Il ne faut pas tolérer la violence, il ne faut pas tolérer non plus le blocage du pays. Je pense qu'il faut écouter, il faut discuter, il faut parler avec les gilets jaunes et leurs revendications ou leur mal-être, quelque part, fiscal. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est, je dirais, cassé, brisé, tout ce qu'on a vu toute la journée à Paris, c'est absolument scandaleux. Il faut être intraitable avec la violence et ces actes de barbarie, quelque part.
Thomas Guénolé, quand on écoutait Christophe Castaner, vous me disiez, attendez, c'est pas vrai.
Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, il avait menti le week-end dernier quand il avait dit finalement que les gilets jaunes qui défilaient égale Marine Le Pen, égale ultra-droite, ce qui était finalement réduire à Marine Le Pen un mouvement massif populaire qui représente en fait tout un tas d'opinions politiques différentes et surtout essentiellement, maintenant on a les chiffres là-dessus, ce sont essentiellement les gilets jaunes des gens qui n'avaient jamais manifesté avant. Et qui sont pas particulièrement politisés, en réalité.
C'est dans la peste brune.
Et donc, parler de peste brune, c'est juste une infamie, parce que c'est diffamant. Ce qu'il a dit était faux. Et par ailleurs, il a dit là quelque chose de faux quand il disait, les gens viennent aux Champs-Élysées s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Moi, j'y étais pendant toute la journée, dans le quartier de Place de l'Étoile, les Champs-Élysées. Ils ont bloqué pendant 2 heures l'accès aux Champs-Élysées. Ils empêchaient les gens de venir et ça a créé des attroupements un peu partout qui ne sont pas cause de violence, mais qui ont favorisé les échauffourées. Et donc la gestion de Castaner et de l'appareil policier a été en partie une gestion de gribouille qui a favorisé le fait que ça dégénère.
Vous voulez dire que ça a été voulu par...
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que c'est un problème de mauvaise gestion. Je ne dis pas que c'est nécessairement une tentative de manipulation. Il ne faut pas tomber non plus dans les accusations que je ne pourrais pas prouver. Je dis simplement ceci, c'est qu'il y a eu aussi des problèmes et il faut simplement l'avoir en tête. J'ai vu, je dis bien j'ai vu, des CRS chargés et gazés, des manifestants non violents. J'ai vu ça de mes yeux.
Cette édition spéciale se poursuit. Il est 20h10 sur France Info et l'info, c'est d'abord avec Camille Revel.
Et ces mots, il y a quelques minutes, d'Emmanuel Macron, je n'accepterai jamais la violence. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Réaction du chef de l'État après les scènes de violence en marge de la mobilisation des gilets jaunes, des affrontements à Paris entre casseurs et forces de l'ordre, des voitures incendiées, des commerces pris pour cible sur le boulevard Haussmann. Les grands magasins ont été évacués et fermés. Au bilan, 270 interpellations à Paris, toujours il y a au moins 110 blessés. Au total, selon le ministère de l'Intérieur, 75 000 gilets jaunes sont mobilisés aujourd'hui à travers la France. Des manifestations, là aussi parfois émaillées de violence, avec des échauffourées à Marseille, Charleville-Mézières et à Tours, où 35 personnes ont été blessées, à des policiers arrosés d'acide, selon la préfecture de Touraine. Un manifestant lui a eu la main arrachée en tentant de renvoyer une grenade assourdissante lancée par les CRS. Emmanuel Macron lui s'exprimait il y a quelques minutes, donc depuis le G20 en Argentine. Le communiqué final du sommet évoque des problèmes commerciaux, mais il s'abstient de toute condamnation du protectionnisme. Les États membres appellent à une réforme nécessaire de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La disparition de la comédienne Maria Pacaume à l'âge de 94 ans. Elle était l'une des figures les plus connues du théâtre de boulevard, mais aussi un visage familier au cinéma avec des rôles notamment dans Les Sous-doués de Claude Zidi ou bien La crise de Colin Serrault.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Nous sommes en édition spéciale, évidemment, et on revient bien entendu sur ces manifestations, sur ces violences qui se poursuivent dans Paris. Je vous propose d'écouter d'abord ces paroles de gilets jaunes qui ont été interviewées aujourd'hui par les reporters de France Info.
Ils nous font exactement la même chose que la semaine dernière. La semaine dernière, ils ont voulu nous parquer au Champ de Mars. Ils sont en train de faire la même chose ici sur les Champs-Élysées. On n'ira pas là où ils veulent qu'on aille. Aujourd'hui, la France, la rue, elle est à nous. On ira quand on aura décidé, quand on le voudra, tous ensemble.
Je rentrerai pas, c'est une souricière.
Bien sûr.
Ils le savent, ils l'ont dit, rentrer sans rien. Puis s'il faut rentrer, ben on rentrera, mais on leur rentrera sur eux, mais pas à l'intérieur.
Faut pas rentrer parce que on va être pris dans une tenaille, qu'on va se faire gazer, et puis on pourra plus rien faire. Il y a un camion en haut qui est en bas, un autre camion en haut qui est en haut, et ils vont nous prendre en tenaille, et puis c'est foutu. Vaut mieux aller foutre le bordel dans les rues de Paris, et puis voilà, c'est tout, hein, sans rien casser, bien sûr.
Voilà pour ces paroles de gilets jaunes. Jérôme Sainte-Marie, c'est intéressant, vous êtes politologue, vous étiez également dans les rues de Paris, proche de l'Étoile, où se sont passées ces violences. Vous avez entendu ce qu'a dit Thomas Guénolé, il parlait finalement de... comment dire, de petites provocations, de blocage, de fait qui la police qui aurait un peu favorisé ces
provocations,
qui aurait favorisé ces violences.
J'ai pas employé provocation.
Je vais essayer donc de vous décrire très rapidement ce que j'ai pu voir et comment j'interprète, sachant que j'avais participé, enfin pas participé, j'avais assisté plus précisément aux manifestations les précédentes des Gilets jaunes, comme je le fais d'ailleurs très souvent pour les manifestations de gauche ou de droite. Je trouve ça très intéressant de voir l'opinion des gens mobilisés. C'est pas forcément la même opinion que les gens sondés qui les soutiennent. Tout ça pour vous dire que ce qui m'a beaucoup frappé déjà par rapport aux violences, il faut bien préciser aux auditeurs que la nature de la violence extrême qui s'est développée dès l'après-midi a changé vers 18-19 heures. C'est-à-dire qu'on a une violence qui est une violence qui n'est pas légitime dans le cadre des lois républicaines, mais qui est une violence politique qui se déroule pendant quelques heures.
Qui était la violence des Gilets jaunes, quoi.
Absolument.
Non, contre deux Gilets jaunes, excusez-moi. C'est
deux Gilets jaunes.
Voilà. Deux Gilets jaunes avec, de fait, le soutien passif de beaucoup de gens, faut le dire, parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que malgré ces scènes et malgré énormément de lacrymogènes, d'interventions des forces de l'ordre, eh bien la colère est telle, si vous voulez, que les Gilets jaunes, qui pour la plupart ne participent pas par définition aux violences, eh bien malgré tout revenaient sur le lieu. On n'observe pas toujours ça dans les manifestations. Parfois, dès qu'il y a une intervention policière, restent les plus résolus, puis les autres s'en vont. Là non, tout le monde
est resté. Les gens restent.
Là, tout le monde est resté.
Ils sont passés à partir de 18h.
Et parce que si vous voulez, parce que la colère visiblement est de plus en plus grande, semaine après semaine, comme le nombre de manifestants est de plus en plus grande. Et puis là, depuis 18h, ce que j'ai pu observer dans le quartier de l'Étoile, c'est l'arrivée d'une toute autre population qui souvent d'ailleurs n'a pas de gilets jaunes. C'est probablement des jeunes désœuvrés, enfin j'ai pas fait d'interview auprès d'eux, hein, donc je suis très prudent, des bandes souvent qui venaient là exclusivement pour piller, et qui le font souvent en affrontant très peu d'ailleurs les forces de l'ordre, mais plutôt à l'abri d'un rideau en quelque sorte de gens plus politisés qui eux sont au contact des forces de l'ordre, ils en profitent pour attaquer, j'ai bien vu, des véhicules, mais également des magasins, etc. Là c'est une violence qui va complètement détruire l'image, enfin qui risque de détruire l'image de ce mouvement, mais qui n'est pas, comment dirais-je le fait, des gilets jaunes, pour ce que j'ai pu observer dans les quelques rues où j'étais.
Je confirme le témoignage, j'ai vu la même chose.
Non, confirmation par Thomas Guénalé.
Je ne suis pas une experte et je n'étais pas sur les Champs-Élysées, donc je reste très humble et je ne fais que répéter ce que disait Laurent Nunez il y a une heure sur une chaîne concurrente, pardon, Olivier de Lagarde. Laurent Nunez, donc secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, qui s'occupe bien sûr de la sécurité, qui est ancien, qui était il y a encore quelques mois à la préfecture de police de Paris.
Lui qui disait que les policiers ont bien du mal à...
Qu'ils ont bien du mal et ils rendaient bien sûr hommage aux forces de police, aux pompiers, etc., etc. Mais ce qu'il disait, lui, alors encore une fois, je cite M. Nunez, il disait que sur la fin, bien sûr, en fin d'après-midi, cette violence n'était pas le fait de petits jeunes désœuvrés. Peut-être y en avait-il, Monsieur Saint-Olivier. En tout cas, selon Monsieur Nunez, c'était, je le cite, pratiquement des groupes beaucoup plus organisés, beaucoup plus professionnels et des activistes. Voilà,
non, c'est
ce que dit.
C'est pas du tout ce que j'ai vu.
C'est ce qu'a dit Monsieur Nunez tout à l'heure.
On a la chance, on a deux témoins directs sur le plateau, puisque Jérôme était là, moi aussi, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que l'existence de gens qu'on appelle casseurs, et il y a différentes catégories derrière casseurs selon pourquoi ils viennent, le fait qu'il y ait des gens qui soient venus et qui soient non pas des casseurs, mais des insurgés par la violence. Voilà. Ça, c'est dès le matin. C'est dès le matin qu'il y en a. Je vais être clair là-dessus. Et je vais être précis. On est d'accord ou pas avec l'action politique violente? Mais les appeler des casseurs, je dis ça s'il y a des journalistes qui nous écoutent, ça ne permet pas de comprendre
Monsieur
ce dont
Guénolé,
on parle. Ce sont des insurgés. Je termine juste
Ne
pas confondre avec les gens dont on parlait tout à l'heure, qui sont des pillards pour le coup, et qui eux arrivent plutôt en toute fin d'après-midi. Et en plus de ça, et je voudrais le rappeler aussi, il y a pendant ce temps-là la quasi-totalité des Gilets jaunes à Paris et dans tout le reste de la France qui, eux, sont là dans une manifestation qui est une manifestation pacifique et bon enfant. Je voudrais le rappeler parce qu'il y a un effet de loupe sur les violences. Je dis que les appeler des casseurs ne permet pas de distinguer les motivations entre des pillards et des insurgés. J'ai pas dit que j'ai... Voilà, c'est pas la même chose.
Quand vous êtes très en colère par rapport à votre voisin, vous n'avez pas cassé la voiture
de votre voisin. Non, mais un insurgé n'est pas quelqu'un qui est en colère, est quelqu'un qui est en insurrection. Mais je vous dis pas que je l'approuve, je vous dis que c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient pour piller un magasin. Il faut comprendre que c'est pas la même chose.
J'ai une guerre sémantique. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Je suis obligée de corriger, vous avez parfaitement raison, c'est moi qui ai mal répertorier, en tout cas rapporter les propos de M. Nunez, et pardonnez-moi, il ne parlait pas de ce qui se passait en fin d'après-midi lorsqu'il parlait de, d'une évolution dans les casseurs, entre guillemets, il parlait de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce samedi, par rapport à samedi dernier. Pardonnez-moi. Donc effectivement, c'était pas, encore une fois, ça pouvait tout à fait en début de journée et de toute façon tout au long de la journée à Paris, et M. Nunez faisait bien la différence entre ces gens qui cassaient et qui allaient volontiers procéder à des actions violentes, des gilets jaunes stricto sensu qui avaient leurs revendications, mais pour M. Nunez, encore une fois, aujourd'hui, pardonnez-moi, par rapport à la semaine dernière, c'est bien cela. Les groupes, et c'est d'où la violence, en tout cas M. Nunez l'explique, cette violence démesurée, beaucoup plus difficile à anticiper, disait-il, de la part du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police, c'est que ces groupes-là, aujourd'hui, étaient beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés, beaucoup plus activistes et beaucoup plus politisés.
Pierre Gattaz, comment expliquer finalement ce désespoir? Quand on se met à casser, certes, on est en colère, mais on n'est pas seulement en colère contre l'augmentation de 6 centimes du gasoil.
Je voudrais quand même reparler des commerçants, des passants, des touristes, des forces de l'ordre, des pompiers, tous ces gens qui sont quand même là et qui ont été victimes, et de l'image de la France. Donc quand on parle des insurgés, on les appelle comme vous voulez, casseurs, pilleurs, insurgés, gens en colère, vous ne cassez pas, vous n'utilisez pas la violence, et je dirais, on ne bloque pas le pays. On peut manifester, c'est un droit tout à fait normal de manifester, de se mobiliser, de débattre, de négocier passivement. Et moi je trouve ça épouvantable d'essayer de commencer à excuser des gens qui... pendant une journée, on brisait des...
Expliquer alors, n'est pas excusé, c'est un vieux débat, là, pour le coup, en sociologie.
D'accord, mais alors, moi, je voudrais penser aux commerçants, aux entrepreneurs, aux gens qui ont vu leurs vitrines pillées, etc. Et ça, on n'en parle jamais assez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut continuer de discuter, de comprendre le mouvement de ras-le-bol fiscal des gens manifestants, des gilets jaunes, et puis les casseurs, il faut s'en occuper par ailleurs.
Et c'est ce que nous allons faire dans deux petites minutes, Pierre Gattaz. Mais il est 20h20, c'est l'heure de l'info.
Je reprends la parole juste après.
Et les chiffres augmentent d'heure en heure. 270 interpellations et 110 blessés, dont 17 parmi les forces de l'ordre. La journée de violence à Paris en marge de la mobilisation des gilets jaunes, des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre, des voitures incendiées, des magasins pris pour cible, des Champs-Élysées à la rue de Rivoli, en passant par le quartier de l'Opéra. Au total, selon le ministère de l'Intérieur, 75 000 gilets jaunes se sont rassemblés à travers la France aujourd'hui. Manifestation, là aussi parfois marquée par des heurts. À Pau, un millier de personnes ont tenté en vain de forcer le portail de l'entrée de la mairie. À Nice, 10 personnes sont en garde à vue. Réaction ce soir d'Emmanuel Macron depuis Buenos Aires en marge du sommet du G20. « Je n'accepterai jamais la violence », assure le chef de l'État. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression d'une pacifique, d'une colère légitime. Autre réaction, celle du chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, le pouvoir veut un grave incident pour jouer la peur. Dans un communiqué, le parti Les Républicains condamne les vandales qui revêtent un faux gilet jaune et appelle à un référendum sur la transition écologique. Autre mobilisation à Marseille contre l'habitat indigne. Plusieurs milliers de manifestants rassemblés près d'un mois après l'effondrement d'immeubles qui a provoqué la mort de 8 personnes. Le football, 15e journée de Ligue 1, et Lyon garde sa 2e place après un match nul à Lille. Score final de partout.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Avec un nouveau bilan des blessés à Paris, une centaine de blessés et puis surtout un blessé gilet jaune qui serait en urgence absolue. C'est Christophe Castaner qui vient de donner cette information. On va tout de suite, évidemment priorité au direct sur France Info, retrouver Farida Noir. Farida, vous êtes place de l'Étoile. Est-ce que la situation commence à se calmer ?
Oui, elle s'est même bien calmée. Je suis juste à côté de l'Arc de Triomphe où la circulation a repris. On voit maintenant passer des scooters, des voitures de particuliers. Donc pour la circulation, c'est redevenu normal. En revanche, il y a toujours des camionnettes de gendarmerie qui restent positionnées, notamment sur l'avenue de la Grande Armée, mais plus aucun gilet jaune. Par contre, beaucoup de badauds qui sont venus ce soir par curiosité photographier, filmer les dégâts, le chaos de cette journée. Je me trouve juste juste à côté d'un restaurant qui s'appelle La Belle Armée, qui a été incendié. Les pots de fleurs sont à terre, les vitrines
encore,
sont détruites.
Pas, là, mais il y avait carrément des barricades.
Je suis juste à côté d'un magasin d'optique aussi qui a été pillé. Il y a des étuis de lunettes partout. Il y a aussi des magasins à côté dont les vitrines ont été brisées. Des carcasses de voitures, de motos juste en face de moi. Des barrières qui sont au sol. C'est le résultat d'une journée extrêmement tendue et des face-à-face qui ont commencé dès 9h du matin et qui n'ont jamais cessé tout au long de la journée, des face-à-face entre gilets jaunes et CRS, des face-à-face entre casseurs venus clairement en découdre. J'en ai vu certains avec des battes de baseball, des drapeaux de pirates, vêtus de noir, sans aucun gilet jaune. Des gilets jaunes aussi qui se sont sentis obligés de riposter pour se défendre, me disent-ils, face à la charge des CRS. Et tout a pris fin, en fait, ici, vers 18h30, quand les CRS qui neutralisaient les avenues qui entouraient l'Arc de Triomphe ont décidé de donner la charge pour libérer la place. Quand ils l'ont fait, les gilets jaunes ont reculé, ont été obligés de partir. Et c'était la fin, à partir de 18h30, d'une journée de chaos ici, sur l'Arc de Triomphe.
Merci Farida Noiran, en direct de la place de l'Étoile à Paris. Tout le monde veut parler hein, sur le plateau de ces informés. Yannick Halimi, peut-être un mot de commentaire sur ce que vient de dire Farida.
De commentaire, si vous voulez, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Thomas Gonmagnolé.
Allez-y.
Quand Thomas Guénolé disait tout à l'heure que le gouvernement s'est trompé en voulant droitiser, ultra-droitiser le mouvement des...
Quand Castaner les a qualifiés de tels le week-end
étant l'émanation du Rassemblement national, premièrement. Et deuxièmement, en disant qu'il faut bien faire la part entre les casseurs et les insurgés, je voulais quand même rebondir sur deux choses. Certes, le mouvement est extrêmement complexe, il est inédit et il est encore très très peu lisible. Mais tout de même, au début, en tout cas, les discours tenus par les gilets jaunes se rapprochaient beaucoup de mouvements populistes de droite, puisqu'ils faisaient... Je termine, monsieur Saint-Olive, pardonnez-moi. Je disais seulement les raisons pour lesquelles on pouvait penser cela avec les élites, le peuple, et puis quand même des revendications qui étaient plus près des petits commerçants, de la petite bourgeoisie que des ouvriers. Après, l'autre point sur les insurgés, comme vous le disiez, expliquer n'est pas justifié, mais enfin, une insurrection dans un pays qui n'est pas démocratique, ça peut être tout à fait légitime. Dans un pays comme la France, où en plus on demande aux gilets jaunes d'être reçus et de dialoguer, c'est peut-être différent. Juste, je termine, si c'est pour vous, je dis vous, la France insoumise, une façon de se greffer et de prospérer, je ne veux pas employer le mot de récupérer qui est très péjoratif, peut-être, mais reconnaissez que vous avez quand même raté un peu le coche au début, parce qu'au début, la France insoumise s'est très très peu exprimée sur ce mouvement-là.
Alors, il va rien reconnaître du tout.
Premièrement, et deuxièmement, ce que dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure sur ces violences est quand même peut-être inquiétant pour un parti politique qui est présent à l'Assemblée nationale, à savoir
si c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, la rencontre des extrêmes. Mais Emmanuel Macron, depuis l'Argentine, vient de s'exprimer. Je vous propose tout de suite qu'on l'écoute.
Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés, ou que l'Arc de Triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos.
Emmanuel Macron, qui s'est donc exprimé il y a quelques minutes au G20 en Argentine. Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je voudrais revenir sur cette question essentielle de la violence et de la violence politique que l'on a observée dans les rues de Paris. D'abord, la première chose, c'est que j'ai observé, durant cette manifestation, comme lors des précédentes, un comportement, je ne suis pas un spécialiste, mais qui m'a paru admirable, des forces de l'ordre. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu énormément de lacrymogènes.
Thomas Guénolé n'est pas du tout d'accord avec vous, mais
il y a peut-être un problème d'effectif.
Je voudrais juste finir, il y a un problème d'effectif,
mais en tout cas, effectivement, dans les conditions où ils étaient placés, j'ai noté moi un comportement vraiment tout à fait digne de la police française en cette occasion. Cependant, effectivement, la police est confrontée, de fait, et les CRS est confrontée à une population qui est de plus en plus en colère. Et on assiste à un retour de la violence politique en France, comme on l'a connu dans les années 70 ou les années 60, tout simplement parce qu'il n'y a pas de débouché politique évident face à un mécontentement croissant qui se durcit, notamment les catégories les plus populaires, à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron.
Et on va continuer.
C'est pas un simple problème de maintien d'ordre, c'est un vrai problème
politique. Et on va continuer à en débattre. Les informés, vous restez bien en place, cette édition spéciale se poursuit. On va laisser passer la météo, l'info. On se retrouve dans 5 petites minutes.
Avec le pack Open Up Fibre Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux.
Moi, avec mon pack Open Up Fibre, j'ai un super débit et deux décodeurs TV UHD pour profiter de tous mes contenus sur tous mes écrans en même temps.
Moi, avec mon pack Open Up, j'ai un forfait mobile 50Go pour partager mes vidéos de Noël.
Bah, ma vidéo de bûche a plus de likes que la tienne.
Le pack Open Up Fibre 50Go est à 29,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 69,99€ par mois.
Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.
Like signifie j'aime. Offre soumise à condition, dont 40€ par mois remboursé pour les nouveaux clients Orange. Engagement 12 mois minimum. Détails sur orange.fr.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski à Météo France.
La douceur sera souvent le seul point positif de ces journées de dimanche, avec des températures de 4 à 8 degrés le matin près des frontières de l'Est, 10 en moyenne plus à l'Ouest, et pas moins de 13 à 16 l'après-midi, avec des pointes à 19 sur Biarritz et Perpignan, 17 à Ajaccio. Mais côté ciel, si les bords de la Méditerranée conservent une ambiance clémente l'après-midi, après une matinée souvent sombre et quelque peu humide, sur le reste du pays, le balai des perturbations va continuer, poussé par un vent d'ouest sensible, avec des pluies soutenues, notamment de la Bretagne à la Gironde et du Limousin au Val-de-Loire. Notez que l'après-midi, au nord de la Loire, ça va toujours mouiller, mais les pluies continues seront remplacées par des averses, et que sur le nord des Alpes, il va neiger le matin à partir de 1300 mètres et au-dessus de 2200 l'après-midi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, l'info Emmanuel Langlois.
L'Arc de Triomphe plongé sous un nuage de lacrymogène au milieu des jets de projectiles, ce sera l'une des images de cette journée. Troisième samedi de mobilisation des Gilets jaunes, décidé à maintenir la pression sur le gouvernement et aussi de nouvelles violences à Paris. Près de 300 arrestations ce soir, une centaine de blessés, dont une quinzaine parmi les forces de l'ordre. Les affrontements se sont poursuivis jusque dans la soirée, dans le quartier des Grands Magasins, boulevard Haussmann, également le quartier d'Opéra, Rivoli ou encore près du musée du Louvre. Les cortèges qui ont réuni 75 000 personnes à travers la France, selon le ministère de l'Intérieur, contre 106 000 la semaine dernière. Parmi les réactions, celle de Jeanne d'Auxerre, la maire Les Républicains du 8e arrondissement de Paris, où se sont déroulées la plupart de ces heures. Elle parlait tout à l'heure sur BFM d'un état insurrectionnel, avec des dizaines de voitures brûlées dans plusieurs rues et des bâtiments incendiés. Christophe Castaner était, lui, l'invité du journal de TF1 il y a quelques minutes. Il a dressé un premier bilan de ces débordements après les affrontements à Paris, où la situation est plus apaisée, même si elle n'est pas totalement sécurisée, a dit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui évoque donc une centaine de blessés, dont un gilet jaune en état d'urgence absolue.
Celles et ceux qui étaient là ne sont pas des manifestants, ne sont pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes se battent pour une cause, ils manifestent, ils revendiquent et c'est parfaitement légitime. Ceux qui étaient là sont venus pour piller, pour casser, pour voler, pour blesser, pour tuer même, avec certains gestes, avec certains comportements. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans les Champs-Élysées? Tout simplement parce qu'on leur demandait d'ouvrir leur sac. Nous avons souhaité faire un geste de dialogue pour les Gilets jaunes, qui voulaient cet axe stratégique que sont les Champs-Élysées, alors que tous les ministres de l'Intérieur savent que c'est très difficile de tenir ce lieu et l'ont toujours interdit. J'ai souhaité, avec le Premier ministre, tendre la main, dire cet axe est accessible, mais pas aux casseurs. Mais ils ne sont pas rentrés. Ils sont restés du côté de l'Arc de Triomphe et ils ont attaqué tout de suite. Et ils se sont camouflés en gilets jaunes. Et c'est au fond tout le problème que nous avons et contre nos forces de sécurité. Parmi eux, il y a des manifestants, légitimes, je l'ai dit. Des gens qui ne sont pas venus pour faire des actes de violence. Et nos forces de l'ordre, qui ont une première mission, celle de protéger, jamais de blesser, de toujours protéger. Et c'est la consigne que je leur donne depuis 15 jours. partout en France, ben cette mission, ils ont du mal à la réaliser face à des gens qui sont là pour les blesser, pour les tuer.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, il y a quelques minutes sur TF1, puis j'ajoute qu'à Tours, un manifestant a eu une main arrachée en tentant de renvoyer une grenade assourdissante lancée par les CRS. Il y aurait aussi plusieurs blessés, des centaines de gilets jaunes qui étaient toujours repliés tout à l'heure dans l'avenue Grammont. Enfin, un mot de sport avec sur sa lancée de sa belle performance à Manchester City en Ligue des Champions. Lyon qui arrache le nul 2-2 à Lille en Ligue 1. C'était dans la soirée. Il est 20h33, les informés, ça continue.
Les informés, Olivier Delagarde.
Retour sur le plateau des informés. Effectivement, nous sommes en édition spéciale, toujours avec nos reporters, toujours également avec nos invités sur ce plateau. Pierre Gattaz, ancien président du MEDEF, Jannick Halimi, rédactrice en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, Thomas Guénolé, politologue, membre de la France Insoumise, et Jérôme Sainte-Marie, également politologue. Vous êtes directeur de PollingVox. Et puis, vient de nous rejoindre Delphine Gautchot du service police-justice de France Info. Bonsoir Delphine.
Bonsoir Olivier.
Vous revenez à l'instant des manifestations parisiennes. Qui avez-vous vu ?
J'ai vu une foule en fait assez hétéroclite, des gilets jaunes. Très difficile effectivement de dire en fait qui est un véritable gilet jaune dans ces manifestations, qui le revêt pour commettre des actes de dégradation, etc. En tout cas, il y avait des retraités venus là. Parfois pour la première fois, il y avait beaucoup de jeunes en fin de journée. J'ai vu des mineurs, beaucoup de jeunes de banlieue. Ça, c'était un phénomène un peu nouveau parce que dans les deux samedis précédents, en fait, les jeunes de banlieue n'étaient pas venus à Paris. Donc là, ils étaient là. Certains, évidemment.
Est-ce qu'ils étaient là dès le départ, à votre avis, ou est-ce que ils sont arrivés? C'est ce que nous racontait Jérôme Sainte-Marie tout à l'heure.
Si je peux me permettre, disons le raccourci pose un peu problème.
Ils arrivaient plutôt sur la fin de la manifestation.
Il y avait aussi le collectif.
Non, mais on va laisser répondre.
Il y avait des jeunes de banlieue, probablement surtout pour piller. Excusez-moi, mais il y avait aussi le collectif Justice pour Adama qui était là.
Tout à fait, j'en ai rencontré.
Contre les violences policières.
Thomas Guénolé. Tout le monde a droit à la parole. On va laisser Delphine Gautchot poursuivre son récit.
Non, mais voilà, il y avait effectivement des gens qui étaient venus, beaucoup de provinces, manifester tout à fait pacifiquement, avec des gilets jaunes, des gens qu'on a vus sur les différents barrages en province. Et puis, d'après mes informations, se sont mêlés effectivement environ 200 manifestants de l'ultra-droite, à peu près autant manifestants de l'ultra-gauche. Et puis, ce que me disent mes sources au renseignement, c'est qu'il y avait aussi parmi les casseurs, monsieur tout le monde, des gens énervés, qui moi m'ont dit, on était là pour manifester pacifiquement, mais face à la réponse des CRS, face au gaz lacrymogène, on en a pris beaucoup, face aux grenades dispersantes, face aux canons à eau, eh bien nous on se sent incompris, la colère est encore plus importante, et donc des gens qui étaient venus effectivement juste dire voilà, les revendications qu'on connaît, les taxes, etc. Eh bien, ces gens-là, en fait, il y a une forme de radicalisation du mouvement parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être compris.
Merci beaucoup, Delphine. Pierre Gattaz, vous entendez ce que dit Delphine Gautchot? C'est intéressant parce que au début, on voulait dire il y a les gentils manifestants et puis les horribles casseurs. Et puis, en fait, les choses sont moins simples que ça.
Je voudrais revenir sur le malaise des Français et le malaise qu'on voit aussi dans certains autres pays européens qui arrivent aux extrémismes et au ras-le-bol et à des exactions comme on l'a vu à Paris. Il y a 5 causes fondamentales pour que les gens s'expriment mal dans les votes ou dans la rue. 1, problème de sécurité. C'est pas ça le problème aujourd'hui. À part à Paris. Deuxièmement, problème d'emploi. Il y a des peuples qui n'ont pas d'emploi, des territoires qui n'ont pas d'emploi, comme le nord de la France, et ça, c'est dramatique. 3, problème de pouvoir d'achat. C'est le problème des gilets jaunes, avant tout. Pouvoir d'achat, comment on peut joindre les deux bouts, et là, on a un problème de taxes, de fiscalité, et autres, et d'autres. Quatrièmement, problème d'espoir, et cinquièmement, problème de fierté. Quand vous perdez l'espoir, quand vous n'avez plus de futur, quand vous avez encore moins de fierté d'être européen ou d'être français, là, ça va extrêmement mal. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller calmement. Nous travaillons sur Business Europe, sur ces 5 causes d'extrémisme, de populisme et de de malaise et d'angoisse terrible des populations et qui fait
enfin,
que
là, ça va mettre du temps.
Pour le parti, oui, attendez, ça prend du temps. Non, non, oui et non. Le problème aujourd'hui que j'ai compris des gilets jaunes, c'est un ras-le-bol fiscal de taxes. Il y a un overdose qui dure.
Injustice fiscale, c'est pas
la même chose. Qui dure depuis des années. Alors, on a un problème majeur en France. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, tous les pays européens nous le disent.
La répartition
vous êtes
richesse.
À 56% du PIB en dépenses publiques. La France n'est pas gérée, pas bien gérée, pas managée sur la partie dépenses publiques. La moyenne européenne est à 49%.
Les dépenses privées sont plus élevées, vous êtes d'accord?
Les dépenses publiques,
les
c'est
dépenses
toute l'administration.
Sont plus élevées mais, que les dépenses publiques.
Non, vous n'êtes pas du tout. Vous êtes sur un sujet, pas du tout. Les dépenses publiques françaises, nous sommes.
Au PIB, vous le savez.
Nous sommes les champions. Nous sommes les champions du monde ou les champions d'Europe de la dépense publique. Pourquoi? Parce que nous avons une dépense publique, nous sommes un pays très administré et nous sommes en train de découvrir les vertus de
c'est
l'économie
vrai,
et de l'entreprise.
C'est parce que vous comptez la redistribution, c'est
mais
pour
je
ça.
Vous, mais pas du tout. Je
désolé,
vous dis juste que.
En dépense administrative, on est au même niveau que l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
Mais pas du tout,
mais
pas du tout. Il faut faire de la gestion
la
et du management.
La différence,
pas du tout.
C'est les dépenses publiques qui partent en répartition des richesses par
excusez-moi,
le système de protection sociale.
Je pense que votre débat est sans doute relativement intéressant, mais il est très loin des préoccupations aujourd'hui des gilets jaunes.
Alors attendez, après, il faut débattre, il faut discuter, il faut regarder comment on peut se sortir de cette crise politiquement, je ne sais pas, je ne suis pas aujourd'hui en position de le faire. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire les réformes de la France. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'on patine, qu'on ne fait pas ces réformes. Les Allemands l'ont fait en 2003, ça a duré 2-3 ans avant que les Français se rendent compte des vertus de l'économie, de l'entreprise, qui a permis de redistribuer de la croissance, de faire de la prospérité, parce que la vertu de l'économie et de l'entreprise, c'est de créer de la richesse.
Mais monsieur,
ça fait 35 ans qu'on ne fait pas ces réformes, et ça fait 35 ans, regardez la Suisse, qui est un pays formidable, qui n'a pas cassé, qui a une fiscalité entrepreneuriale, économique, et qui fait qu'ils ont 3% de chômage, qu'ils ont des votations, en effet, très démocratiques.
Vous parlez du pays où il n'y a même pas de congé maternité, on est d'accord.
Mais écoutez, est-ce que c'est la révolution sociale en Suisse? Ils votent toutes les 15 jours, ils votent pour savoir s'ils veulent des congés, ils ont refusé.
Je suis en train de vous dire que vous citez en exemple un pays où le chômage social est beaucoup plus bas que le nôtre.
La question qui se pose.
Mais pas du tout, monsieur, mais pas du tout. Allez vivre à Singapour, allez vivre dans tous les pays.
Pardon, posez une question. C'est de savoir tout de même si, à partir d'aujourd'hui, les réformes vont être possibles ou est-ce que finalement le gouvernement va être complètement bloqué? Je vous propose d'en parler dans quelques instants parce qu'il est 20h40, c'est l'heure de l'info avec Camille Revel.
Et on vient de l'apprendre, Édouard Philippe annule son déplacement à la COP24, la conférence climat en Pologne. Annonce de Matignon après les violences à Paris en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Ce soir, la situation dans la capitale est plus apaisée, même si elle n'est pas totalement sécurisée. C'est Christophe Castaner qui l'assure. Le ministre de l'Intérieur, invité du 20h de TF1, évoque 100 blessés, dont un manifestant en urgence absolue. Il dénonce une stratégie des professionnels du désordre. 287 personnes ont été interpellées dans la capitale. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime, dénonce de son côté Emmanuel Macron. Les coupables des violences veulent le chaos, assure le chef de l'État. 75 000 gilets jaunes ont participé à des rassemblements à travers la France, rassemblements là aussi parfois émaillés de violence. La préfecture de Haute-Loire a été incendiée à Tours. 35 personnes ont été blessées. Un homme a eu la main arrachée en tentant de renvoyer une grenade assourdissante lancée par les policiers. Ces mots d'Emmanuel Macron tout à l'heure depuis le G20 en Argentine. Donald Trump est sur place lui aussi et doit dîner ce soir avec Xi Jinping en marge du sommet. Les présidents américains et chinois sont censés négocier une trêve commerciale entre leurs deux pays. Elle était une figure du théâtre de boulevard, visage familier aussi au cinéma. La disparition de la comédienne Maria Pacaume à l'âge de 94 ans. Sur les planches, elle a notamment joué dans Joyeuse Pâques et au cinéma dans La Crise ou Les Sous-doués.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Retour sur le plateau des informés, toujours en édition spéciale, alors que les violences se poursuivent encore dans la capitale à l'heure où nous parlons. Vous avez entendu Delphine Gauthier qui nous parlait finalement de la composition des manifestants. Elle nous parlait de membres de l'ultra-droite, elle nous parlait de membres également de l'ultra-gauche. Yannick Halimi, c'est quoi l'ADN politique de ce mouvement? On peut le définir.
C'est compliqué, hein.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, alors, moi, est-ce que l'ADN qu'on pouvait encore une fois, je vais répéter peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qui émanait quand même comme fil conducteur, au moins, il y a deux semaines, en tout cas, à l'origine, juste avant le 17 novembre, on va dire, c'était quand même, encore une fois, au début, ce cri du peuple contre les élites, ce cri des territoires, des régions contre Paris.
Mais ce cri, donc, il a une marque politique.
Si je peux alors attendez, beaucoup plus dans les doléances.
Ouais. Et donc c'est quand même une sorte de curseur qui met ce mouvement plus près d'un populisme que d'un mouvement. Que d'un, je ne sais pas, franchement, je n'en sais rien. J'essaie de décrypter. Que d'un mouvement politique ou syndical ou social classique. À partir de là, et à mon avis, c'est de là que naît la crise et qu'elle peut devenir pour le coup politique, c'est que le gouvernement peut faire quoi face à un mouvement qui demande plus de services publics mais moins d'impôts, qui demande des choses souvent contraires, ouais, qui n'ont pas d'officialisation, d'institutionnalisation. On dit qu'Édouard Philippe ne va
alors,
pas...
On va voir comment le gouvernement peut...
Bon, alors répondre. Voilà,
Jérôme Sainte-Marie, voilà, je le vois, il brûle de vous répondre.
Oui, parce que sur la
ils
nature...
Répondent,
du, sur
sans
la nature,
brûler.
Sur la nature du mouvement, il y a quand même, on n'a pas de preuve absolue, mais il y a quand même des forts indices. D'une part, on a quand même, on peut observer qui va manifester à Paris et en province, il y a quand même beaucoup de témoignages là-dessus. Il y a même, à la limite, on peut regarder qui est arrêté à cette occasion, et puis on peut regarder également qui soutient le mouvement dans les sondages.
Quand vous avez regardé tout ça, vous dites quoi ? Ce sont des électeurs traditionnels ou occasionnels de Marine Le Pen ?
Même s'il y a des gens très à droite, très à gauche, ou ni l'un ni l'autre dans ce mouvement, eh bien, la nature, me semble-t-il, de ce mouvement est une nature avant tout sociale. C'est même un mouvement, j'ai vu ça apparaître même dans le commentaire d'Institut de sondage, qui réveille la notion de classe sociale. Tout se passe un petit peu comme si la réunification en haut de la société et de la gauche et de la droite menée par Monsieur Macron pour mener sa politique de réforme et de modernisation, etc. Eh bien, si cette réunification à la tête de la société de la gauche et de la droite entraînait aujourd'hui une forme de réunification de la gauche et de la droite à la base de la société, qui est par définition plus nombreuse.
Ben ça fait pas plus ça, Monsieur Saint-Olive. Non, si on réunit la droite et la gauche, c'est que
Sainte-Marie.
C'est
Monsieur Sainte-Marie. Mais le problème, c'est que c'est pas le peuple, parce que si on voit
quand on ce qu'on appelle le peuple qui peut donner naissance à un mouvement 5 étoiles. Comme en Italie, par exemple.
Ce n'est pas le peuple.
Vous voyez bien
de manière...
que ça casse les clivages droite-gauche.
Ça casse...
On n'arrête pas de dire qu'il y a autant de gens de droite ou de gauche,
Madame
ou d'extrême droite
si
ou d'extrême
droite. Si je peux vous répondre, c'est simplement le fait. C'est simplement le fait que là, effectivement, ce n'est pas le peuple, parce que les soutiens, lorsqu'on regarde le soutien, ce qui est le truc dur, eh bien, sont très différenciés selon la catégorie sociale. Moins on a de revenus, plus on est bas dans la hiérarchie sociale, plus on soutient le mouvement. Inversement, les cadres, notamment en région parisienne, le soutiennent très peu. Donc, c'est pas un peuple indifférencié socialement.
Bien sûr, hein.
Et c'est bien cette nature sociale du soutien qui trouble complètement les repères politiques.
Ça, ce n'est pas
habituels.
Ce ne sont pas ceux qui ne payent plus l'ISF. Monsieur Sainte-Marie qui défile, c'est évident.
La lutte des classes n'est jamais partie, monsieur. En fait, simplement, la lutte des classes...
Bon, elle avait pris un petit coup dans l'aile, on va dire.
Non, c'est simplement que, depuis quelques années, la lutte des classes est menée par les classes supérieures contre les classes inférieures. Je parle en termes de revenus, bien sûr. Sur les revendications des Gilets jaunes, en fait, il suffit de regarder leur doléance. Ils ont publié leur doléance. Et dedans, vous avez un ras-le-bol des taxes. Je vais être d'accord avec monsieur Gattaz. Pour les taxes qu'ils payent eux, mais pas sur les taxes en général, puisque certes...
Ça, en général, de toute façon, on critique toujours les taxes qu'on paye soi et jamais celles des autres.
Non, mais attendez, parce que ça va dans un sens bien précis, c'est-à-dire que c'est l'idée de vouloir la baisse des taxes qui pèsent sur le plus grand nombre et l'augmentation ou le rétablissement des taxes qui pèsent sur les plus riches. Ils sont dans leur doléance pour le rétablissement...
Notamment l'ISF.
Excusez-moi, je vous ai... Voilà, c'est ça, mais c'est ce que j'allais dire.
Oui, bien sûr.
Notamment, ils sont pour rétablir l'ISF. Donc, ils sont pas dans un ras-le-bol fiscal. Ils sont sur une exigence de justice fiscale, alors que c'est l'injustice fiscale qui prévaut à l'heure actuelle. Ce qui permet de résoudre la contradiction, ils ne sont pas pour moins d'impôts et plus de services publics, ils sont pour plus de justice fiscale qui permet de financer les services publics dont ils manquent là où ils vivent, puisqu'ils vivent dans les territoires où les services publics ferment, on manque de transports en commun, etc. Et par rapport à est-ce que c'est peuple, est-ce que c'est pas peuple, etc., en réalité, au sens large, ce sont les classes populaires, c'est-à-dire les classes intermédiaires et les classes encore plus pauvres. Et quand on regarde les chiffres disponibles, effectivement, Jérôme
exclus,
l'a mentionné tout à l'heure.
Pas les exclus, notez-le.
Pas les exclus, c'est-à-dire
pas les exclus,
en bas,
pas
non.
Les plus précaires, c'est les gens qui travaillent.
Les ultra précaires.
C'est les gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à s'en sortir.
C'est ça, ce sont les classes intermédiaires. Et je voudrais préciser donc que Vous mentionniez tout à l'heure, quelle est la question, c'est vous qui le mentionniez, pardon madame, sur la position de la France insoumise sur ces revendications, est-ce que ça nous correspond ou pas? Honnêtement, les doléances, moi je les ai lues, par rapport au programme L'Avenir en commun de la France insoumise, à peu près 8 propositions sur 10 qu'il y a dans les doléances des Gilets jaunes, nous pouvons les signer. Donc, sur le fond de ce qu'ils proposent, je vous parle pas de
y compris la démission etc. Macron, y compris les réformes.
À titre personnel, je suis tout à fait favorable.
Est-ce que nous sommes en train de vivre le retour de la lutte des classes ou sa réactivation?
Elle n'est jamais partie.
Elle est partie, comme dit Thomas Guénolé.
Je crois qu'il faut arrêter avec cette histoire de lutte des classes. Je crois que si vous voulez, il faut faire comprendre à tout le français que pour s'en sortir, il faut créer de la richesse. Qui crée de la richesse? Les entreprises.
C'est pas vrai, c'est les gens qui travaillent.
Non, bien sûr. Mais bien sûr, une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise, une communauté humaine. Et là, pour faire de la croissance, trouver de la croissance, dans un monde de compétition internationale, lorsque vous avez une charge d'impôts, comme on l'a vécu depuis 35 ans, vous étouffez l'entreprise, vous étouffez l'économie. C'est ce que a compris Emmanuel Macron et qui fait les bonnes réformes. Mais pas du tout. Le problème, vous renfermez sur vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut que le fardeau...
La Corée du Sud fait du protectionnisme.
Laissez parler 3 secondes. Je voudrais juste vous expliquer que dans tous les pays du monde qui réussissent depuis 30 ans, qui ont fait des réformes, eh bien, ils ont fait le pari de l'économie, le pari de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est elle qui crée de la croissance, elle qui crée de la richesse, elle qui crée de la prospérité, elle qui crée de la fierté par le travail et d'épanouissement humain. Vous n'avez toujours pas bien compris ça dans votre camp.
La France doit être dirigée comme une entreprise.
Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de croissance, si vous allez chercher la croissance. Deuxièmement, nos fonctionnaires sont des gens formidables, ne sont pas gérés, ne sont pas managés. Est-ce que vous avez vu des ressources humaines? Est-ce que vous faites de la bienveillance dans l'administration? Non. Il faut faire de la productivité bienveillante avec chacun de nos fonctionnaires. C'est quelque chose que j'ai pratiqué dans mes entreprises, toutes les entreprises du monde et tous les pays du monde qui ont réussi à s'en sortir pour générer de la croissance, baisser leur niveau d'impôt général, eh bien, ont des fonctionnaires, une administration qui fonctionne, qui est productive, qui est épanouie, avec de l'intéressement à la clé, des bonus à la clé, qui permet d'avoir des gens épanouis. Eh bien, je crois que ça, on l'a pas fait, on l'a pas osé, en disant non, on est une économie administrée, etc. C'est un autre monde. Non, c'est les mêmes gens.
Ouais, je me dis ça.
Et ce sont les mêmes gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Donc, je pense que là, il faut absolument regarder ce problème d'impôt qui frappe tout le monde, ce problème d'espoir, de futur, faire de la gestion et du management. Et je crois que tous les pays du monde qui réussissent, sur une trentaine qui marchent formidablement bien, la moitié étaient des pays émergents, ils ont tous fait ce pari-là de faire le pari de l'économie, de l'entreprise, des entrepreneurs qui partagent, qui créent de la richesse et qui la partagent après. Je suis tout à fait d'accord pour partager la richesse, fondamentalement, l'intéressement, la participation, les bonus.
Vous êtes conscient que les forces anti-système montent, y compris dans les pays que vous citez en exemple.
Mais
on est d'accord
pour
là-dessus.
Pour plein d'autres raisons, monsieur.
Ah bon,
pour plein d'autres raisons.
Et que les Gilets jaunes demandent plus de services publics.
Et pas l'entreprise.
Très rapidement, parce qu'on arrive à 5 ans.
10 secondes.
Monsieur Gattaz, comment vous expliquez que des hommes politiques aussi libéraux qu'a pu être monsieur François Fillon, par exemple, j'en prends un comme ça au hasard, n'aient jamais dit que l'État devait être géré avec une ligne comme un compte d'exploitation, sinon il n'y aurait pas de dépenses sur la défense nationale, sur l'éducation et sur la culture, des choses qui n'ont pas une rentabilité immédiate, premièrement. Et deuxièmement, monsieur Guénolé, comment vous expliquez que les syndicats,
ne se ma grosse voix, c'est l'heure de l'info avec Camille Rebelle.
Si c'était vraiment classe sociale contre avec
et les mots ce soir d'Emmanuel Macron, je n'accepterai jamais la violence qui s'est passée aujourd'hui à Paris, n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Réaction du chef de l'État après les scènes de violence en marge de la mobilisation des Gilets jaunes, des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre, des voitures incendiées, des commerces pris pour cible en plein cœur de la capitale. Au bilan 287 interpellations, il y a au moins 110 blessés, dont tant manifestants en urgence absolue, selon Christophe Castaner. Sur TF1, le ministre de l'Intérieur assure que ce soir, la situation est plus apaisée, même si elle n'est pas totalement sécurisée. Le Premier ministre Édouard Philippe lui annule son déplacement à la conférence climat, la COP24 en Pologne. Au total, selon l'exécutif, 75 000 gilets jaunes se sont mobilisés à travers la France. Des manifestations, là aussi, parfois émaillées de violence, comme au Puy-en-Velay. La préfecture de Haute-Loire a été incendiée. À Bordeaux, 2000 manifestants ont tenté d'entrer dans la mairie. La préfecture condamne des violences inadmissibles. Aux États-Unis, une chapelle ardente et une première cérémonie dès lundi à Washington en hommage à George Bush père, l'ancien président américain disparu à l'âge de 94 ans. Son cercueil sera présenté au public dans la rotonde du Capitole, annonce des responsables du Congrès.
France Info.
toujours en édition spéciale et nous allons tout de suite, priorité au direct évidemment, retrouver Benjamin Elie. Vous êtes toujours avenue de la Grande Armée, c'est l'une des avenues qui conduit à la place de l'Étoile. Est-ce que la situation s'est apaisée depuis tout à l'heure où nous étions en direct?
Alors juste une précision, je suis bien sur une avenue qui conduit au rond-point de l'Étoile, mais sur l'avenue Kléber, tout au bout, non loin de l'Arc de Triomphe. À l'heure actuelle, on voit encore quelques mouvements de gendarmes mobiles devant moi. Ces gendarmes qui essayent de chasser finalement les derniers récalcitrants, quelques gilets jaunes qui errent comme ça sur les trottoirs sans trop savoir quoi faire. Encore quelques cris de colère ici et là, mais le calme semble revenir petit à petit. D'ailleurs, la circulation a été rétablie sur le rond-point de l'Étoile. Il y a quelques minutes, il y a eu un tir de gaz lacrymogène pour chasser encore une poche de résistants, même si le terme n'est peut-être pas le bon, pour qualifier certains casseurs. C'est peut-être le terme le plus adéquat pour qualifier ces gens qui ont saccagé notamment l'avenue Kléber que j'ai remonté et qui est ravagée par ces hommes masqués qui ont détruit banques et commerces.
Benjamin Elie en direct de l'avenue Kléber, pardon, à Paris. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu des soutiens aux gilets jaunes. Selon un sondage Odoxa que nous avons publié il y a quelques jours, 84% des Français soutiendraient ce mouvement. Et puis les soutiens viennent également d'horizons assez divers. Tenez, regardez, écoutez.
Je sais d'où je viens, j'ai bien compris. On a bien compris, nous les artistes, qu'il y avait un gros malaise. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'y réfléchis, on y réfléchit, on va trouver quelque chose.
Mais moi, je vous soutiens, les gilets jaunes. Voilà, je suis avec vous, que ce soit les dom-toms, la métropole, on est tous ensemble dans la même galère. On en a marre de casquer comme des porcs.
Je soutiens évidemment à fond les gilets jaunes. Comment ne pourrions-nous pas les soutenir dans la mesure où ça fait partie de notre famille? Je veux dire, dans nos familles, nous sommes tous gilets jaunes, finalement.
Voilà, Franck Dubosc, Arnaud Ducret, Jean-Michel Jarre, on pourrait également citer Michel Polnareff qui depuis Las Vegas déclare soutenir les gilets jaunes.
Brigitte Bardot également. Brigitte Bardot. Oui.
Brigitte Bardot. Je voudrais juste faire une précision sur la lecture des différents sondages qui sont faits actuellement. Vous avez bien 84% des Français qui trouvent justifié le mouvement des gilets jaunes, mais on a parfois vu pour d'autres mouvements, je ne sais pas si vous avez une manifestation d'infirmières, vous allez avoir une majorité écrasante de Français qui vont trouver ça justifié. Justifié, ça ne veut pas dire soutenir. Quand vous regardez quelle est la proportion des Français qui soutiennent, vous êtes plus, ce qui est déjà énorme, 46%, ce qui pointe plus en une semaine d'ailleurs, malgré les violences, la moitié des Français soutiennent.
Et avec ces violences, vous ne pensez pas que ça risque de se faire basculer?
Je ne suis pas sûr, ça ne s'est pas produit la semaine dernière, alors qu'il y avait déjà eu des violences très médiatisées samedi dernier. Vous avez 46% des Français qui soutiennent donc le gilet jaune, ce qui est très impliquant, et après vous avez 30 ou 35%, je ne sais plus, qui éprouvent de la sympathie. Mais encore une fois, il y a des strates, parce que sinon 84%, c'est un chiffre magique, mais qui écrase complètement la réalité politique et sociale.
Ce soutien, évidemment, de l'opinion publique, c'est le vrai problème pour le gouvernement.
Oui, d'ailleurs, le gouvernement fait d'énormes efforts dans sa communication pour ne parler que soit des insurgés qui sont dans la violence, soit des pillards, qui, je le répète, sont de profils différents, et pour pouvoir parler le moins possible des revendications sur le fond de la mobilisation des Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que, en réalité, il ne peut pas les satisfaire, quand bien même il aurait envie, sur le principe, de les satisfaire, il ne peut pas, puisque la mobilisation des Gilets jaunes réclame très exactement le contraire de la politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, ils demandent, quand vous lisez leur doléance, encore une fois, ils demandent le rétablissement de l'ISF, ils demandent la baisse des taxes sur le carburant qui frappe le plus grand nombre, et ils demandent le rétablissement d'un certain nombre de services publics dans les territoires qui en manquent.
Contrôle des EHPAD, retraite à 60 ans, payer les grosses entreprises.
Quand vous voyez l'orientation générale de la politique économique et sociale demandé dans les cahiers de doléances, en fait, Emmanuel Macron n'est pas du tout sur le même programme de gouvernement, donc il ne peut pas les satisfaire, et donc il essaye par tous les moyens de changer.
Il y a un signal politique qui est donné là.
Mais oui, fondamentalement, mais quand j'écoute les acteurs internationaux que vous avez cités, Polnareff, etc., quel est le problème de la France? Mais ça fait 35 ans que ça dure, on paye tous beaucoup trop d'impôts, d'une part, et deuxièmement, c'est trop compliqué, l'administration est complexe.
Pas tous, non.
L'administration est complexe, et donc si on règle ces deux problèmes-là, et je reviens sur les dépenses publiques, je réponds aussi à ce que vous m'avez dit, madame, tout à l'heure, sur oui, la France a à des fonctions régaliennes de police, de justice, de protection de ça, etc. Mais si vous ne créez pas la richesse pour gérer, pour faire que, pour financer ces hôpitaux publics, etc., l'éducation nationale, eh bien, comment vous faites? Vous augmentez les impôts. Ça fait 35 ans qu'on augmente
bien
les
sûr,
impôts pour faire
mais
ces
monsieur
fonctions
Gattaz,
publiques.
Mais monsieur Gattaz, est-ce que l'ISF s'investit véritablement dans l'économie française? Est-ce que vous n'étiez pas plutôt favorable à une baisse immédiate des cotisations salariales? Ce qui aurait enlevé au moins ce sentiment,
eh bien, je
peut-être
vous donne
la réalité,
concret.
Mais ce sentiment d'injustice qu'ont les Français
l'ISF,
avec la fin de l'ISF alors
madame,
que leur taxe à eux augmente.
C'est un bug fiscal français depuis 30 ans.
De millions d'emplois.
Est-ce que je peux répondre sur deux choses? L'ISF, d'abord, c'est un bug français. Ça fait fuir des tas d'entrepreneurs, vous le savez, mais 20 concurrents français de Radial se sont vendus, sont partis à cause de pression fiscale. Il faut revenir à une normalité. Nous sommes dans un monde d'économie mondialisée. Donc l'ISF est une aberration totale. Ça a été supprimé, bravo, pas complètement d'ailleurs. Deuxièmement, ça permet de redonner de la confiance à des entrepreneurs, des investisseurs. C'est comme ça que ça marchera. Si vous voulez continuer d'avoir des hôpitaux publics,
est-ce qu'ils sont revenus
nationale.
Est-ce qu'ils ont créé ils des emplois train... Est-ce qu'il ne fallait pas demander des contreparties aux entreprises?
Il faut arrêter. De la confiance, ça prend un peu de temps. Ça
les meilleures choses ont une
ça
fin.
Va venir.
Ça fait 20 ans qu'on baisse leurs infos et ils n'en reviennent pas.
Spéciale.
Pas du tout.
Le débat va se poursuivre. Merci à vous quatre, Jérôme Sainte-Marie, Yannick Halimi, Thomas Guénolé, Pierre Gattaz, merci à vous d'être venu. On lira votre livre « Y croire ». C'est publié aux éditions Débat Public. Merci à toutes les équipes qui ont rendu cette émission possible.